Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est exactement 18h à Bamako. Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Voici les grandes lignes de ce journal. Vers une réorganisation de certaines unités des forces armées maliennes, le Conseil des ministres a adopté hier les modalités de fonctionnement d'un commandement des opérations des forces spéciales. Après l'annonce de l'audit sur la gestion des fonds alloués aux partis politiques, des anciens responsables de partis politiques dissous ont réagi. C'est parti pour la 11e édition du Salon du financement de l'agriculture. Ce salon est une opportunité de faciliter l'acquisition de financement pour les projets agricoles, selon les organisateurs. Voilà pour le sommaire à la présentation de ce journal. À cette occasion, Fili Dambélé assure la mise en onde. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a annoncé la réorganisation des forces armées maliennes et la création de nouvelles unités spéciales de lutte contre le terrorisme. Le Conseil des ministres a adopté hier les modalités de fonctionnement du commandement des opérations spéciales dans le but de mieux relever les défis sécuritaires. Une annonce qui intervient au moment où l'armée malienne fait face à une recrudescence d'attaques terroristes sur l'ensemble du territoire national. Les détails avec Imerna Kilomaïga.
Selon le ministre de la Défense, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de réformes engagées au sein des forces armées et de sécurité. Le document indique que l'utilisation des unités de forces spéciales créées, notamment un bataillon autonome des forces spéciales, des centres d'aguerrissement, des forces antiterroristes, une force spéciale air et un groupement de reconnaissance et d'intervention, a mis à lumière certaines lacunes qu'il convient de corriger. Le ministre précise que le projet de texte adopté crée le commandement des opérations spéciales, qui sera structuré autour d'un organe de commandement et d'un centre de planification et de conduite des opérations spéciales. Cela, dit-il, dans le but d'une meilleure exécution des opérations militaires menées par les forces spéciales. Cette réorganisation de troupes intervient au moment où l'état-major général des armées a annoncé une attaque terroriste contre le poste de sécurité de Diourra de la région de Ségou. Pour l'instant, aucun bilan n'a été fourni.
La création du commandement des opérations spéciales permettra de mieux coordonner les opérations de lutte contre le terrorisme. C'est en tout cas l'analyse faite par Yeya Maïga, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité. Selon l'expert, ce nouveau dispositif de commandant pourrait s'étendre aux unités spéciales de la Confédération des États du Sahel. Yeya Maïga est au micro de Imerna Kilomaïga.
Cela veut dire que désormais toutes les forces spéciales seront réunies sous un seul commandement, mais également aussi l'ensemble des opérations de planification, de conduite d'opérations seront aussi mieux structurées. Cela va apporter plus d'efficacité sur le terrain. La lutte contre le terrorisme, les forces spéciales se verront intervenir conjointement, mais également aussi de manière plus efficace, plus structurée pour avoir des résultats plus efficaces. Les nouveaux commandes qui seront menés par ces unités spéciales seront des combats intenses et aussi des combats qui seront en étroite coordination avec les autres forces spéciales des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel.
À toutes ces informations, vous avez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Certains anciens responsables de partis politiques dissous ont réagi suite à l'annonce d'un audit sur la gestion des fonds qui leur ont été alloués. Cet audit portera sur la gestion de l'aide publique accordée aux partis politiques entre juillet 2000 et mai 2025. Cette décision a été prise mardi dernier par la section des comptes de la Cour suprême. Le résumé de leur réaction avec Ousmane Alibouli.
Munta Gatal, président de l'ancien parti Sinid Faso Yiriwaton, explique que l'accès aux documents nécessaires est problématique. Il affirme que les archives se trouvent généralement dans les anciens sièges des partis et ne peuvent être rassemblées qu'à l'occasion des réunions entre ex-dirigeants. Cependant, la loi interdit actuellement à ces anciens responsables l'accès aux sièges de leur parti ainsi que la tenue de telles réunions. Munta Gatal estime que si la section des comptes souhaite mener à bien sa mission, elle doit demander la levée de ces interdictions et le rétablissement des parti politique. Sinon, elle devrait faire part de l'impossibilité d'exécuter la mission confiée au Premier ministre dans le respect des lois en vigueur. Konimba Sidibé, un autre ancien dirigeant politique, estime qu'il est problématique de vouloir auditer une organisation qui n'existe plus. Selon lui, il aurait été plus logique que l'audit ait lieu avant la dissolution des partis. Il rappelle que, conformément à la législation malienne, les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans, alors que l'audit en question couvre une période de 25 ans, soit 15 ans de plus que la durée légale de conservation. Il convient de noter que cette décision de la section des comptes est intervenue plus d'un mois après la dissolution des partis politiques par décret présidentiel.
Je vous l'annonçais dans les titres, la 11e édition du Salon du financement de l'agriculture s'est ouverte ce matin au Mémorial Modibo Keïta de Bamako. Cette rencontre agricole de 3 jours vise à faciliter l'acquisition de financement pour les projets agricoles. Ce salon est organisé par AgriVision Sahel en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Lale Tangara était sur place.
Oudou Bengali est le coordinateur régional d'AgriVision Sahel, organisateur de ce salon de financement. Il explique que cette initiative vise à briser la glace entre les partenaires et les porteurs de projets.
Celui qui veut entreprendre et que vous n'avez pas les moyens, c'est très difficile de trouver les moyens avec la famille ou avec quelqu'un d'autre. Mais avec les banques et les institutions, c'est eux leur rôle de financer le secteur privé. Ce salon, c'est un cadre d'échange, de partage de connaissances pour que chacun dans son rôle puisse parler le même langage et pour faire le développement un objectif commun pour tout le monde.
Des exposants venus de Bougouni, Kati et Bamako prennent part à cette rencontre de 3 jours. Ils espèrent nouer des partenariats afin de développer leurs projets agroalimentaires.
Nous faisons de la transformation agricole sans produits chimiques. J'expose quelques produits.
Nous avons du lait frais, du yaourt, de la crème et aussi des brochettes à base de lait.
J'expose des tomates, des aubergines africaines, du piment et du poivron afin de faire connaître nos produits.
Nous souhaitons avoir des partenaires pour agrandir nos projets.
En 10 ans d'organisation, cette rencontre a permis de récolter plus d'1 milliard pour le financement des projets agricoles et d'embauche d'animaux. Cependant, les organisateurs espèrent une meilleure implication des banquiers dans le secteur agricole.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
18 heures passées de 7 minutes au Mali, les cheveux des nouveau-nés sont au cœur de diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Koumafin Keïta a rencontré des spécialistes suivant le dossier de la semaine.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yacouba Dougouni, sociologue, explique « Les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant, ce qui explique le mystère qui les entoure. » Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux. C'est pour cette raison que les anciens insistent pour qu'ils soient protégés des regards malveillants.
Vous savez, les cheveux, c'est les formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. La tête est rasée en fonction de ses lignes. Voilà, destinée à être riche et tout ça. Donc, on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, les premiers cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveaux-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et l'air équivalent en or est donné à nous. selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. Donc, on ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu, qui sont les cheveux, pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
Dossier signé Koumafin Keïta. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Sekou Gadigo. Ce soir, quel est le thème du débat?
Bonsoir à Sétou Kanté. Les Jeux de l'AES, l'intégration à travers le sport, c'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Aïssata Maïga, chargé de mission au ministère des Sports et membre de la commission d'organisation, Souleymane Bobo Tunkara, journaliste reporter sportif, et Drissa Nyono, également journaliste reporter sportif.
Merci et très bon débat. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Réécoutez ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Tout de suite, le magazine. Le Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique, a célébré ce 16 juin la journée de l'enfant africain. Le thème de la 34e édition est « Planification et budgétisation des droits de l'enfant progrès depuis 2010 ». Cette célébration offre l'occasion de sensibiliser le public aux droits des enfants. Plusieurs activités sont prévues par des acteurs du domaine, notamment des conférences, débats, des émissions radio et télévision, la projection de films et des remises de dons. Le magazine Tous les enfants du jour fait le point sur les avancées notoires en matière de droits des enfants, une réalisation de Fatoumata Kodjo.
Cette journée est plus qu'une célébration. C'est un rappel historique pour le Parlement des enfants du Mali. Fatoumata Dite Diko Djamoussa Kane, sa présidente, explique les difficultés rencontrées par les enfants.
Cette journée me rappelle le courage des enfants de Soweto qui se sont battus pour leurs droits en Afrique du Sud parce que leur engagement résonne toujours dans nos cœurs. On a surtout le travail des enfants, le mariage précoce. Les filles sont déscolarisées, ils sont mariées très très vite. Le non-enregistrement des naissances ainsi que l'insécurité dans les fronts comme Gao, ainsi de suite.
Madame Diarra Djeneba Sanogo, ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, revient sur les progrès réalisés par le Mali en matière de protection des droits des enfants depuis 2010.
Sur le plan politique, l'élaboration de la politique nationale de promotion et protection de l'enfant en 2014. Sur le plan institutionnel, la création de plus d'une cinquantaine d'institutions privées d'accueil et de placement pour enfants et d'institutions privées d'accueil, d'écoute, d'orientation ou d'hébergement pour enfants. Aussi, la création du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre en 2019.
Malgré ces bilans, des défis demeurent, notamment l'enrôlement des enfants par des groupes armés. Antoine Akloga, président de la coalition des droits des enfants, dresse ce constat.
Les enfants qui sont enrôlés, qui sont exposés à être enrôlés dans les groupes et forces armées, sont d'abord les enfants qui sont sans attache familiale, qui errent dans les rues, qui ont les qui sont dans la misère, d'où la nécessité pour nous de travailler à éradiquer tout phénomène qui peut favoriser la constitution d'enfants en situation de rue.
Le départ de certains partenaires clés compromet les ressources et les actions en faveur des enfants, selon Alou Koulibaly, directeur du SAMU social. Il demande un soutien marqué des décideurs.
Et aujourd'hui, avec la crise diplomatique, nous, organisations de la société civile, avons vraiment du mal à avoir des ressources nécessaires pour mener à bien notre activité. C'est là où on fait vraiment les plaidoyers auprès des pouvoirs publics de nous soutenir davantage pour faire face aux besoins de ces enfants-là.
L'UNICEF est disposé à accompagner les efforts du gouvernement pour rendre effective la protection des droits de l'enfant. Franck Kassado, chef de protection de l'enfance de l'UNICEF Mali.
Nous réaffirmons notre engagement de continuer à apporter un appui technique au gouvernement afin que les ressources publiques soient mobilisées, allouées et dépensées et suivies de manière efficace, transparente. transparente et inclusive pour le bénéfice de tous les enfants du Mali.
Pour sa part, le Parlement des enfants estime qu'il ne suffit plus de faire de beaux discours, mais de passer aux actions concrètes pour leur bien-être. Fatmata Dit Diko Djamoussa Kane, présidente du Parlement des enfants.
Nous, enfants du Mali et d'Afrique, demandons plus que des promesses. Nous demandons au gouvernement, malgré les difficultés actuelles, de revoir à la hausse des budgets alloués à la protection de l'enfant et de rassurer l'utilisation efficiente de ces fonds au bénéfice de tous les enfants du Mali.
Cette commémoration de la journée de l'enfant africain a été couplée au lancement des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Le thème national était « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ».